voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Amélie Nothomb. Ce soir, la personne et la personnalité.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
On va aborder avec vous cette quatrième partie d'A Voix Nue et on va parler de la célébrité, c'est-à-dire de la personne d'une part, de la personnalité de l'autre. Alors, je vais commencer par la personne. Je me suis permise, en vous présentant tout au début, de donner votre date de naissance. Assumez-vous votre âge ou est-ce que j'ai commis un impair ?
Vous n'avez pas commis un impair. C'est pas fameux de vieillir, hein. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Donc, il faut bien que je m'y fasse. Donc, autant que les gens le sachent. Je constate une chose avec amusement, c'est que jusqu'à 30 ans, c'était beaucoup plus difficile de vieillir. Depuis que j'en ai 50, ça me paraît beaucoup moins grave. Parce que c'est comme si j'avais atteint une telle vieillesse que je me disais, oh bon, ma vieille, si ça te fait encore souffrir, que les gens sachent que tu es vieille, eh ben, qu'est-ce qu'il te faut?
Est-ce que, puisque on parle plus globalement de la célébrité, est-ce que vous avez connu la défaite, l'échec dans votre vie?
Oui, bien sûr, j'ai connu la défaite quand je suis partie au Japon, à l'âge de 21 ans. Je veux dire, quand je suis retournée au Japon à l'âge de 21 ans, c'était réellement dans l'idée de vivre au Japon, réellement dans l'idée de prouver à la face du monde que j'étais japonaise et que j'étais tout à fait non seulement capable de vivre dans ce pays, mais que j'allais y être formidablement heureuse et formidablement à ma place. Ce que j'ai vécu au Japon a été un échec retentissant. Échec professionnel, ben ça... Je veux dire, entrer dans une boîte, dans une très importante boîte japonaise comme interprète et finir dame pipi pendant 8 mois, si c'est pas un échec, alors qu'est-ce qui est un échec? Et puis même, enfin, mes fiançailles avec ce garçon japonais que j'ai fui une semaine avant la date prévue pour le mariage, vous me direz, c'est quand même mieux de fuir avant qu'une semaine après, on est d'accord. Enfin, c'était quand même aussi un échec. Donc oui, je connais l'échec.
Vous avez été victime d'un viol à l'âge de 12 ans au Bangladesh. Est-ce que ça a marqué un avant-après?
Radicalement. Ça, on ne peut même pas parler d'échec dans ce cas-là, hein. C'est encore autre chose qu'un échec. Bien sûr, c'est un avant et un après. Ça a coupé ma vie en deux. Enfant, j'avais une vision radieuse, colossale de mon destin. J'étais sûre que d'aller au-devant d'un avenir, mais juste étincelant. Suite à cette histoire, non seulement j'étais absolument sûre qu'aucun destin ne m'attendait, mais là, je n'étais juste plus rien. J'étais comme un soldat à qui on a arraché ses galons. J'étais dégradée et il ne m'attendait plus rien. Ma vie était finie. Je suis devenue dramatiquement anorexique après, mais je crois malgré tout, et Dieu sait si cette anorexie a été atroce, funeste et que je ne recommande à personne sur Terre d'être anorexique, je crois quand même que cette anorexie m'a sauvé la vie, parce que ça a été une manière de me torturer autrement. Je me torturais tellement suite à cette histoire, ça a été tellement affreux tous les jours d'être dans cet enfer-là, que somme toute, changer d'enfer en me propulsant dans l'enfer de la faim, de la souffrance physique, d'une autre souffrance physique, a quand même été paradoxalement salvateur.
Est-ce que vous avez mis du temps à en parler de cette scène de viol particulièrement violente qui a eu lieu au Bangladesh quand vous aviez 12 ans?
J'ai mis énormément de temps à en parler. C'est une chose extrêmement bizarre vu qu'il y avait des témoins. Hein, je veux dire, mon père, ma mère, ma sœur étaient sur cette plage et savent très très bien ce qui m'est arrivé. Il n'en fut jamais question.
Pourquoi? Parce que la douleur était trop insoutenable?
Je ne sais pas. Et je vais vous dire une chose, je ne sais même pas s'il eût mieux valu qu'il en fût question. Le fait est là, il n'en fut jamais question. C'est-à-dire le seul mot, on parlait des mots salvateurs tout à l'heure. Je pense que ma mère m'a sauvé la vie, encore une fois. Non seulement parce qu'elle est allée me chercher dans l'eau en hurlant, mais parce que quand elle m'a retirée de l'eau, elle a dit les seuls deux mots qui ont été prononcés sur cette affaire. Elle a dit « pauvre petite ». Merci maman d'avoir dit ça. Parce que grâce à ça, j'ai su que je n'étais pas complètement folle, que ce qui m'était arrivé était réel et qu'il savait. C'est tout ce qui a été dit, ce n'était évidemment pas suffisant, Mais quand même, grâce à ces deux mots, j'ai su que je n'étais pas tombée du côté obscur de moi. C'est-à-dire que si, j'étais tombée dans un côté obscur, mais au moins ce n'était pas moi qui l'avais inventé. C'est déjà quelque chose, vous savez. Il m'a fallu la scène que j'ai écrite dans Biographie de la faim en 2004. Et Dieu sait si cette scène est une litote qui fait quoi, 4 lignes. Il a fallu ça pour que je sois capable d'en parler. Enfin, parler, c'est beaucoup dire.
Vous diriez aujourd'hui que vous avez surmonté cette scène ou non ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais déjà, être capable d'en parler si peu que ce soit, c'est quand même quelque chose. Là encore, je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose d'en parler. Mais voilà, en même temps, le nier n'est certainement pas une bonne idée.
Vous êtes entrée suite à ce viol dans une longue période, donc d'anorexie.
Oui.
Est-ce que vous savez pourquoi votre souffrance a pris cette forme-là ?
Parce que c'est très logique. Cesser de manger, c'est une manière de refuser la féminité. C'est une manière de retrouver l'enfance. C'est une manière de désexualiser le corps. Ça marche très bien. Donc, mon corps n'avait plus de sexe. Et ça a duré pendant un grand nombre d'années. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure... Mon corps a guéri, c'est-à-dire que mon corps est allé manger contre la vie de mon âme. Moyennant quoi, je suis là devant vous. Sinon, je serais morte. Hein. Donc, c'était tout à fait logique que ça passe par là.
Est-ce que vous avez été sensible au mouvement MeToo, de libération de la parole de la femme ?
Oui.
Ou pas du tout ? Donc,
j'ai
oui.
été très sensible et évidemment stupéfaite de voir l'abondance du nombre de témoignages ce que je vous ai dit là, c'est finalement d'une banalité. Incroyable. C'est ça qui est stupéfiant le jour où on se rend compte que, mon Dieu, mais on est presque plus nombreuses à avoir été violées que à ne pas l'avoir été. Hein, c'est un truc de dingue.
Et ce qui explique, je suppose, votre émotion à la lecture du Adélaïde Bon ?
Oui. Je dois dire que ce livre est un tour de force parce que elle n'est pas la seule à avoir écrit sur cette expérience. Mais je ne sais pas comment elle a fait. Elle a trouvé le moyen de tout dire. Mais tout. À juste la bonne distance, et de dire des choses que je serais totalement incapable de dire, mais de les dire de façon juste. Quelqu'un a été capable de formuler ça. Je vous assure qu'il y a un moment où vraiment je me suis rendu compte que je lisais à travers mes larmes et que je pleurais convulsivement.
Vous avez dit « avoir l'air dingue n'a aucune espèce d'importance ».
Mais je suis convaincue qu'on a tous l'air dingue en fait. Il faut bien faire rentrer ça dans la tête de tout le monde. Les gens normaux n'existent pas. Si vous avez l'impression que quelqu'un est normal, c'est que vous ne l'avez pas assez regardé. Si on regarde suffisamment chaque personne, on a tous l'air dingue. Et évidemment, moi la première.
Quand on vous a demandé dans une interview quel élève vous étiez, vous avez répondu « Je regardais le professeur droit dans les yeux, avec beaucoup de sérieux, et je n'écoutais rien de ce qu'il me disait. »
C'est un petit peu exagéré. J'écoutais parfois un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai aussi passé beaucoup de cours à regarder le professeur droit dans les yeux. Je voyais que les professeurs disaient « Mais quel élève ! Mais c'est extraordinaire, on n'a jamais vu une élève écouter comme ça. » Bon, honnêtement, très souvent, je ne les écoutais pas.
Vous aimez beaucoup Schubert, hein ?
Oui.
Qu'est-ce que ça dit de vous, de votre personnalité ?
Je suis une romantique. Il n'y a pas de doute, je suis une romantique. Et puis aussi, j'ai longtemps vécu la situation qui consiste à aimer d'amour fou une personne qui ne m'aimera jamais. Malheureusement, c'est une situation que Schubert a beaucoup vécue. Je crois qu'il n'a vécu que ça, le malheureux.
Et vous pouviez trouver du plaisir, même jusqu'à la complaisance dans cette situation-là, d'être amoureuse de quelqu'un qui ne vous aimait pas.
Oh non, ça me faisait sourire comme un chien. Je me souviens que quand j'avais 16 ans, je me disais... Personne ne m'aimera jamais, ça j'en suis sûre. Mais si un jour je trouve une personne assez dépravée, assez monstrueuse, assez perverse pour m'aimer, même si cette personne est le dernier des monstres, même s'il est répugnant, eh bien, je le remercierai, parce que ce sera quand même un miracle.
Je vous ai rencontré pour la première fois, il y a une dizaine de jours, Amélie Nothomb, et j'ai été frappée par votre physique. Je vous ai trouvée beaucoup plus jeune, beaucoup plus mince. Si j'osais, je dirais même beaucoup plus jolie que ce à quoi je m'attendais au vu des photos que je voyais de vous. Est-ce que la personne n'a pas disparu sous la personnalité ? Ou pour poser ma question un peu brutalement, le champagne, le chapeau, le noir, est-ce que c'est pas un déguisement?
Non, je pense que le champagne, le chapeau sont de formidables adjuvants. Vous m'auriez rencontré à 18 ans, vous n'auriez mais jamais misé un demi-centime sur moi. C'est-à-dire que j'étais tellement mal à tout point de vue et il sortait tellement rien de moi que penser qu'un jour ça allait marcher pour moi, mais dans le moindre domaine au monde, vous auriez dit non, c'est pas possible. Il se trouve qu'un jour un éditeur français, et non le moindre, a voulu de moi, et en plus que ça a bien marché. Bref, l'éditeur qui se frottait les mains s'est dit, ben on va la montrer cette petite, peut-être que ça va marcher encore mieux, mais montrons-la. Et puis moi, j'étais pas du tout prête à ça. Il fallait donc que je rencontre des journalistes, qu'ils sortent quelque chose de moi, et que en plus que j'ai un physique. C'était pas gagné. Bon, ben c'est là que j'ai pas pu réfléchir longtemps. Il fallait le faire tout de suite. Hein. J'ai pas eu le temps de me constituer une cellule psychologique pour me trouver un beau look et quoi que ce soit et des choses à dire. Il a fallu littéralement sauter en parachute sans parachute. Alors je me suis inventé des parachutes pas bien extraordinaires. Hein. Je veux dire, porter un chapeau, c'est quand même pas la chose la plus incroyable du monde. D'autres en portent. Porter du noir, ça je dois dire que j'ai pas attendu la célébrité pour en porter. Depuis que j'ai 17 ans, je ne m'habille qu'en noir. Quant au champagne, mais ça c'est la récompense. Il n'y a rien que j'aime autant que boire du champagne, surtout en certaines compagnies, bien sûr. Mais si en plus ça peut m'aider dans certaines situations, pourquoi me priver d'un tel plaisir?
Alors j'insiste un peu, je vous trouve extrêmement composée quand vous êtes à la télé, particulièrement, et extrêmement naturelle quand on vous rencontre dans la vie de tous les jours.
Je déteste la télévision. Je pense que c'est vraiment le média que je déteste le plus. Or, c'est vraiment le média le plus obligé aujourd'hui. C'est un média où je me sens mal. Donc, vous dites composé, honnêtement, je n'en sais rien. À la télé, je vous jure qu'à la télé, je fais ce que je peux, mais avec toujours le sentiment que j'ai une 22 longs braquée sur moi. Vous voyez, donc quand j'ai une 22 longs braquée sur moi, ça donne ça. Je suis désolée. Ben, le restant du temps, n'étant pas aussi gravement paranoïaque que je peux avoir l'air de l'être à la télévision, ben, ça donne moi, donc ça va, quoi.
Il paraît que les hommes fantasment sur les actrices. Est-ce que les hommes fantasment sur les romancières, Amélie Nothomb ?
Sûrement, mais je pense qu'ils fantasment davantage sur les plus jolies. Alors, cela dit, c'est vrai que je me suis aperçue que certains hommes me draguaient uniquement pour cette raison. Bon, ils sont pas légion non plus, hein, il faut pas mentir, il n'y en a pas eu 250. Mais c'est certain que j'ai rencontré certains hommes que je n'aurais jamais rencontrés si je n'y avais pas eu cette vague notoriété.
Il y en a une en France dont le physique, la tenue est sans cesse commentée, c'est Brigitte Macron. Vous pensez quoi de Brigitte Macron? Vous pensez quoi du couple qu'elle forme avec Emmanuel Macron?
J'aime énormément Brigitte Macron. Je pense que la principale qualité de Macron, c'est Brigitte Macron. C'est une femme incroyable qui a une sensibilité magnifique. Je trouve que...
Vous l'avez déjà rencontrée?
Je ne l'ai jamais rencontrée. Le couple qu'elle forme avec son mari, mais c'est extraordinaire. Quelle histoire d'amour géniale, quelle audace. J'ai vu énormément de gens, surtout dans ma famille, bien sûr, dans le genre de famille d'où je viens, être révulsés par ce couple, dire des choses comme « j'espère que mon fils n'aura jamais une telle professeure de français ». Bon, je les rassure, ça risque pas de leur arriver. Hein. Franchement, des Brigitte Macron, il y en a qu'une, donc... Mais je trouve cette histoire d'amour absolument géniale. Je sais pas ce que vaut Macron comme président. Nous verrons bien. Il est sans doute trop tôt pour le dire. Mais elle, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Ça, j'en suis sûre.
Est-ce que vous avez déjà pensé vous saisir d'un sujet d'actualité, d'une personne réelle, pour en faire un livre? Est-ce que vous pourriez écrire un livre sur Brigitte Macron?
Oh, je pense qu'elle est. On ne sait pas de quoi on est capable. Ça m'étonnerait. J'ai déjà écrit des vies de vraies personnes, mais elles n'étaient pas à ce point célèbres. J'ai écrit la vie de la chanteuse Robert dans Robert des noms propres. J'ai écrit la vie de la romancière Stéphanie Hochet dans Petroni. Je dis pas que j'en ai pas fait vraiment ma chose en changeant certains détails, mais globalement, c'est quand même leur vie que j'ai écrite. Brigitte Macron, je pense que c'est pas possible. C'est trop officiel. Je ne pourrais pas y projeter mes fantasmes.
Vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour stupeur et tremblement. Est-ce que les honneurs viennent combler un vide? Est-ce que les honneurs rassurent, apaisent?
C'est très agréable, les honneurs. J'en ai eu de grands, en effet. Je les ai bien vécus. Ça vient sans doute soigner des blessures. Oui, sûrement, des blessures, je n'en manque pas. De là à dire que ça rassure, je crois que je suis pas très douée pour être rassurée. Je suis une nature inquiète. Je crois que ce que les gens voient le moins en moi, c'est ma peur. Ma peur est constante. Il y a des bons côtés à cette peur, ça maintient extrêmement éveillé. C'est aussi ce qui fait de moi un être aussi dramatiquement insomniaque. Mais rassurée, non, je suis pas capable d'être rassurée.
Vous êtes beaucoup trop célèbre pour avoir le Goncourt. C'est trop tard. Est-ce que c'est un regret?
C'est pas très grave. En même temps, une partie de moi trouve ça absurde, mais en même temps, il y a certainement des choses beaucoup plus graves que de ne pas avoir le Goncourt dans sa vie. J'ai eu de beaux prix littéraires, c'est déjà pas si mal.
Est-ce que vous supportez la critique? C'est-à-dire que c'est un cliché, mais est-ce que c'est pas un cliché vrai de dire que avec le succès, avec la reconnaissance, on tolère de moins en moins la critique?
Je tolère très bien la critique, j'ai pas trop le choix, je la reçois beaucoup. Vous savez, il y a bien sûr les critiques des journaux, j'en ai régulièrement de très mauvaises, voire d'extrêmement mauvaises, voire d'un peu mauvaises, ce qui est pas forcément plus agréable. Je ne me suis jamais rebellée.
Vous les lisez?
Je les lis.
Ce qui est rare, la plupart des écrivains demandent à ne pas lire les mauvaises critiques.
Je les lis parce que je constate que c'est pire de ne pas les lire. On sait de toute façon qu'elles existent. C'est impossible d'ignorer qu'elles existent. Les gens vous en parlent. Du coup, j'ai remarqué que de ne pas les lire créait en moi une paranoïa qui me faisait imaginer des papiers mille fois pires que ceux existants. Donc finalement, il vaut mieux les lire en se disant, à chaque fois que je les lis, je me dis, oh, ce n'est que ça. À chaque fois, je compare à ce que ma grand-mère me disait, aussi bien sur mon physique que sur ma personnalité, parce que je vous rassure, sur ma personnalité, elle n'était pas en reste. Et je me dis, oh, finalement, c'est très supportable. Puis il y a aussi les critiques écrites par les lecteurs, elles ne sont pas forcément tendres. Si on ne supporte pas ce genre de choses, il vaut mieux ne pas faire ce métier.
Est-ce que l'amitié a de l'importance dans votre vie?
Énormément.
Est-ce que l'amitié est un refuge pour vous?
L'amitié a énormément d'importance pour moi. C'est très différent de l'amour, mais ça, en même temps, ça a autant d'importance que l'amour. La fin d'une amitié, la trahison amicale, c'est un choc pour moi presque équivalent à une rupture amoureuse. Je peux rester KO, je me souviens de la dernière rupture amicale que j'ai vécue. Pendant 4 jours, j'ai pas dormi, quoi. J'étais juste KO, j'étais incapable de parler d'autre chose. Je n'en revenais pas.
Comment on fait pour se disputer avec vous, Amélie Nothomb?
Oh, il y a moyen.
On vous trahit, on vous ment, on vous dit quelque chose de méchant?
Pour le mensonge, je suis très tolérante. Je comprends très bien qu'on mente. Tout dépend de la nature du mensonge. Si c'est un mensonge malveillant, alors ça, c'est infect. Mais un mensonge de protection, mais ça, je comprends mieux que personne. Donc là, j'ai une très, très grande tolérance. Si je découvre qu'on est malveillant avec moi, que vraiment on veut me faire souffrir, si je le découvre par la suite, là, j'ai un peu de mal. Je peux dire ma façon de penser, voire rompre carrément avec la personne pour ça.
Vous vendez beaucoup, voire énormément de livres. Est-ce que vous êtes riche?
Écoutez, je suis certainement beaucoup plus riche que je ne m'attendais à l'être. Ça ne fait certainement pas de moi non plus une milliardaire. Disons que je suis assez riche pour pouvoir n'avoir aucun souci d'argent, ce que je trouve merveilleux. Je suis assez riche pour ne jamais réfléchir avant d'acheter des caisses de champagne, ce qui est un petit peu l'essentiel de mon budget, acheter des très bonnes bouteilles de champagne.
Je tiens à signaler que là, vous ne buvez pas de champagne.
Non, parce que j'en boirai cet après-midi et je compte arriver vierge à mon rendez-vous de champagne. Je suis assez riche pour pouvoir aider mes amis, ma famille, et ça aussi, j'apprécie.
Est-ce que la famille est toujours primordiale aujourd'hui dans votre vie? On a parlé de l'amitié, on a parlé de l'amour, on a parlé de la famille au début, mais est-ce qu'elle est aujourd'hui primordiale?
Oui, ma sœur est la principale personne de ma vie. Ma sœur est primordiale. mes parents, tant qu'ils sont de ce monde, pourvu qu'ils y restent longtemps, sont terriblement importants pour moi. Ce noyau de trois personnes, mon père, ma mère, ma sœur, sont des personnes essentielles à ma vie.
Est-ce que vous retournez régulièrement au Japon ?
Non, parce que l'investissement sentimental est trop fort. Chaque fois que je vais au Japon, il s'agit pour moi de retrouver ma nounou. Vous avez vu ce que ça a donné la dernière fois. Le pire, c'est que s'il n'était que de la retrouver, bon, ça demande déjà beaucoup de courage, mais le pire, c'est qu'il va falloir la requitter. Et chaque fois que je la requitte, c'est aussi affreux que la première fois quand j'avais 5 ans. Il faut pour ça une force. C'est comme du combustible nucléaire. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de combustible nucléaire pour retourner au Japon, là. Pourtant, je n'ai qu'une seule idée, c'est d'y retourner. Mais je pense aussi que je suis dans la période amazonienne de ma vie. Quand je vais là-bas, je reçois du combustible, plutôt que d'en perdre.
En ce qui concerne le Japon, vous pouvez fuir vos émotions. Est-ce que vous pouvez vous trouver lâche par rapport à vos émotions ?
Oui, mais je me donne quand même raison de l'être. Il y a des situations où je baisse les bras. Quand je sais que je ne vais plus pouvoir aider quelqu'un, que quelqu'un est allé trop loin dans sa maladie, dans sa folie, dans son gouffre, arrive le moment où je refuse de l'aider parce que je sais que ce n'est plus possible.
Et dans ce cas-là, vous culpabilisez ou pas ?
Je culpabilise quand même parce que je suis quand même la grande reine de la culpabilité. Mais en même temps, ma raison sait que voilà, il y a un degré de folie où on ne peut plus aider les gens.
Est-ce que vous avez pensé mettre votre célébrité au service d'une cause ? La montée du populisme en Europe, le sort des migrants, la cause des femmes avec MeToo ?
Je pense que si je devais vraiment le faire, et à ma façon, je pense l'avoir déjà un petit peu fait, la cause que je défendrais par mon nom, ce serait justement la préservation de la forêt amazonienne. C'est devenu mon objectif prioritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres causes importantes, mais celle-là me tient terriblement à cœur. De voir que Bolsonaro n'a aucun respect de la forêt amazonienne, c'est un truc qui me rend absolument malade. J'ai donné mon accord à ce que certaines de mes apparitions sous ayahuasca, certains de mes témoignages soient visibles sur Internet. Ce n'était pas un mince accord. Beaucoup de gens m'ont vu. Ça m'a valu d'ailleurs des lettres, bon, parfois très charmantes, mais parfois des lettres absolument scandalisées. De gens, ah, nous avons découvert que vous étiez une grave toxicomane. On vous a vu pleine d'ayahuasca sur tel endroit. Bon, c'est un engagement pour moi. La forêt amazonienne est devenue l'unique réservoir d'une certaine forme d'humanité, des esprits, de certaines expériences qui me paraissent essentielles au salut de l'humanité. Et aussi, une partie de mon argent va à la forêt amazonienne. Donc oui, je pense que c'est mon engagement.
Est-ce que vous avez à souffrir du conformisme ?
Oui. Bon, j'en ai à souffrir certainement beaucoup moins que beaucoup de gens qui travaillent et qui m'envoient parfois des témoignages absolument ahurissants des commentaires qu'ils reçoivent, que ce soit sur leur habillement, sur leur façon de parler ou quoi ou qu'est-ce. Mais à mon degré aussi, par exemple, là encore, tout ce que j'ai pu dire sur l'ayahuasca ou sur la forêt amazonienne m'a valu des procès en règle de gens à qui je n'avais rien demandé. Mais ça ne va pas du tout, Amélie Nothomb, mais il faut arrêter, c'est vous donner une image de vous absolument lamentable, mais arrêtez, je dis ça parce que je vous aime bien, arrêtez. Donc oui, le conformisme, à ma façon, je le subis.
S'il fallait ne lire qu'un livre d'Amélie Nothomb, ça serait lequel ? Et est-ce que c'est simplement possible comme question ?
Je déteste cette question, parce que je pense que tous mes livres sont nécessaires, même si je suis capable de voir que certains sont plus important que d'autres. Bon, il se trouve que le plus important, c'est Soif. Mais je pense qu'il fallait écrire tous les autres pour écrire Soif. C'est pas un hasard s'il arrive maintenant. Il fallait tout ça. Donc même si Soif me paraît le plus important, je ne pense pas qu'il permette de faire l'économie de tous les autres.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Soif est parmi vos livres les plus importants ?
Parce que c'est celui dont je suis tombée enceinte quand j'avais 2 ans et demi, c'est-à-dire à une époque où je ne savais même pas que la littérature existait, à une époque où je savais encore moins que je serais écrivain un jour. J'avais 2 ans et demi quand mon père m'a parlé pour la première fois de Jésus, et j'ai tout de suite su que ce type était mon héros. quelque part, peu m'importe même de savoir s'il est Dieu ou pas, je ne suis pas plus avancée que n'importe qui sur cette question. La sensation que j'ai eue au sujet de Jésus était si forte que je savais que j'allais approfondir cette histoire-là un jour.
Vous êtes catholique, catholique pratiquante ?
Non. J'appartiens à une famille extrêmement catholique. J'ai été éduquée dans le catholicisme assez pour savoir que je ne suis ni catholique ni pratiquante, même si je trouve qu'il y a de très belles choses dans le catholicisme. Il y en a trop d'autres qui ne me vont pas. Je ne suis pas pratiquante. Il y a dans l'Église de très belles choses. Il y a des prêtres admirables, mais à côté de ça, il y a trop de choses dans l'Église qui ne me vont pas. Donc, c'est une foi que je préfère vivre seule. J'appelle ça vivre selon le Christ. Ça a l'air parfaitement tarte à la crème, mais c'est très important pour moi de vivre selon le Christ.
Vous vous souvenez des moments où vous vous êtes confessée ?
Oui, bien sûr. Je me souviens de confessions abominables avec des prêtres qui... Je me confessais de toute bonne foi, en disant vraiment bien sincèrement mes péchés. Je me souviens de réactions qui, au moment même, m'ont mise extrêmement mal à l'aise et qui, maintenant que je les revois en tant qu'adulte, comme je comprends d'avoir été mal à l'aise suite à ces réactions de confession. Je pense que la confession peut être une très belle chose, mais qu'il y a trop d'exemples de confessions mal faites pour que je puisse continuer à faire ça. Je préfère encore me confesser toute seule, voire même pas me confesser du tout, que de subir ce genre de choses.
Est-ce que vos livres peuvent être vus comme des confessions ?
Partiellement, mais ce n'est pas une explication suffisante. C'est plus des recherches de compréhension, mes livres, plus que des aveux. Je suis quelqu'un d'hanté par la culpabilité. À côté de ça, je suis assez lucide pour me rendre compte que ma culpabilité n'est pas fondée. Non, que je ne sois pas à mes heures une mauvaise personne, j'ai certainement des choses à me reprocher. Mais enfin, fondamentalement, je sais aussi que ce que j'ai pu faire sur Terre n'est pas terriblement grave. Qu'il y a des criminels infiniment plus graves que moi sur Terre. Donc que cette culpabilité, quelque part, est absurde. Que cette culpabilité est plutôt une recherche de compréhension qu'un vrai besoin d'absolution.
Merci Amélie Nothomb, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Amélie Nothomb. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Laurent Macchetti, coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.